Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
L'exploitation des mines du pétrole et des forêts attire bon nombre d'investisseurs étrangers en République démocratique du Congo. Cependant, les bénéfices tirés de ces exploitations ne profitent pas souvent au développement et au bien-être des communautés locales. La cause, ces communautés ne savent pas bien identifier, répertorier leurs besoins et pour les soumettre aux investisseurs dans un document appelé cahier des charges. Alors comment rédiger un bon cahier des charges qui répond aux aspirations, aux attentes, aux besoins des communautés locales? Comment aider ces communautés à bien rédiger ce document? Nous avons en ligne M. Ignace Bizaboya, il est coordonnateur de la Confédération paysanne du Congo. Alors Ignace, dites-nous comment les communautés peuvent, d'abord c'est quoi un cahier des charges et comment arriver à bien rédiger ce document à soumettre aux investisseurs?
En fait, ok, merci pour la question, mais comme nous sommes au début de l'année, je présente mes vœux les meilleurs pour cette année à la communauté de Radio Okapi et à tous les auditeurs Radio Okapi et surtout à tous les paysans de la RDC.
Merci.
Ok, d'accord. En fait, un cahier de charges, pour être beaucoup plus simple, c'est un document qui retrace les clauses et conditions pour l'exécution d'un contrat. Ça, c'est une définition assez petite et compréhensible par tout le monde.
Oui, document qui retrace
les clauses et conditions pour exécuter un contrat.
Voilà, les clauses et conditions pour exécuter un contrat. Maintenant, oui. Voilà, maintenant on parle des exploitants, par exemple des mines ou des forestiers qui arrivent quelque part. Voilà, il y a des communautés locales. Maintenant, comment les communautés doivent élaborer ces documents qui retracent les clauses et conditions?
Oui, d'abord on doit comprendre qu'une communauté, c'est en fait un groupe dont les membres qui vivent ensemble ont des biens ou des intérêts communs.
Oui.
On peut prendre exemple un village, une cité, une commune et ainsi de suite. Il y a plusieurs exemples. Alors, du fait que la communauté est un groupe social, pour que ce groupe social puisse être écouté par un investisseur, ce groupe doit être d'abord et fondamentalement organisé. S'il n'est pas organisé, ils vont parler en ordre dispersé et l'investisseur justement va tirer profit face à ces désordres-là pour ne pas agir dans le sens que la loi exige.
Alors, dans bien des cas, M. Ignace, ces communautés sont toujours mal organisées, elles vont en ordre dispersé.
Oui, mais c'est justement ce qu'il faut éviter pour que l'on ne puisse pas tirer le bénéfice justement des ressources naturelles qu'il y a dans ces milieux-là. C'est comme ça nous disons que le premier élément, c'est l'organisation. Dès lors qu'ils sont organisés, ils vont désigner des délégués ou leurs élus ou des représentants qui seront justement membres d'un comité, un noyau, pour défendre les intérêts de la communauté. Et ce noyau-là sera justement l'interface de l'investisseur futur, opérateur économique ou industriel, dans ces milieux-là. Donc voilà un peu le schéma qui pourrait, dans une large mesure, protéger les intérêts de cette communauté-là dans un milieu quelconque, que ce soit dans un milieu rural ou que ce soit dans un milieu où les gens ont formé une grande agglomération, cité ou ville.
Voilà, donc la première condition, il faut être organisé, il faut pas y aller en ordre dispersé, avoir des délégués, désigner des délégués qui vont servir d'interface entre la communauté et l'investisseur. Alors lorsque ces délégués sont désignés, qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite?
Lorsque les délégués sont désignés, ils vont établir un dialogue avec le futur investisseur dans leur milieu.
Oui.
De manière à ce que ces délégués-là devront examiner les documents ou l'authenticité du document qui donne droit à ces nouveaux investisseurs d'aller dans ces milieux-là. Puisque sans permis d'exploitation, par exemple, comment peuvent-ils être rassurés que cette entreprise ou cet individu, qu'il soit congolais ou étranger, a réellement obtenu les autorisations conformément aux dispositions légales?
Voilà, donc la communauté, les délégués vont examiner le permis d'exploitation. Après, lorsque l'investisseur va demander les cahiers des charges, il dira, bon, donnez-moi vos préoccupations.
Je vous écoute.
Alors, je disais, maintenant, après, l'investisseur va demander le cahier des charges. Donnez-moi quels sont vos besoins et puis je vais vous aider, n'est-ce pas, à développer la communauté. Alors, comment est-ce que les délégués, comment est-ce qu'ils doivent faire pour arriver à réunir tous les éléments qu'il faut à identifier le besoin, disons, de la communauté?
Oui, là c'est tout un processus. Dès lors que le comité de la communauté sera en contact avec l'investisseur, ils devront rentrer à la base. Ils vont consulter la base pour avoir les avis de la base et ces avis-là seront exactement ce que nous pouvons appeler la formulation de besoins de la communauté. Et ces besoins peuvent être divers, c'est-à-dire par exemple le besoin en eau potable, en électricité, à l'habitat, aux questions des infrastructures scolaires ou sanitaires, aux voies de communication, parce que vous savez que dans nos milieux ruraux, dans l'ensemble, aux trois quarts à l'arrière-pays, le voie de desserte agricole pose problème. Et il y a aussi un problème par rapport à ces voies-là, il y a aussi des cours d'eau qui sont navigables mais qui ne peuvent pas l'être du fait tout simplement qu'il n'y a pas d'entretien. Mais aussi le manque de pistes d'atterrissage parce que tous les espaces sont naturellement à mesure de recevoir des avions de petite portée. Donc, lorsque le comité ira vers la base, c'est pour s'enquérir de besoins qui sont prioritaires, de manière justement à les couler sous forme de demandes auprès de ces bailleurs-là et formuler justement ce que vous êtes en train d'appeler comme cahier de charges, où il y aura de périodicité bien indiquée pour dire voilà, à telle période, nous avons besoin de telle infrastructure. Ça peut être des infrastructures sanitaires ou scolaires, et c'est là justement pour permettre à ce que toutes les générations de la communauté, que ce soit la génération présente ou future, puissent bénéficier de ces ressources. Il ne faut pas aller négocier avec un investisseur pour faire une courte durée, de manière à ce que ceux qui vont venir après n'auront pas le bénéfice justement de ces ressources-là.
Voilà. Est-ce qu'il existe, par exemple, des cahiers des charges standards avec les différents points déjà bien déterminés d'avance? Voilà, quand l'investisseur arrive au village, dans un village, alors il doit faire ceci, cela, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Est-ce qu'il y a des cahiers des charges standards un peu comme cela?
Bon, là, il y a lieu d'éviter justement cet amalgame-là. Généralement, quand les investisseurs arrivent dans un milieu, il s'adresse plus au chef coutumier ou le chef du village. Ceux-là, ils n'ont que des besoins immédiats. Ils ont par exemple besoin de couvertures, du sel, de savon et de tout ce que vous voulez comme produit manufacturier. Or, à l'heure actuelle, face au problème même de la technologie, les gens sont totalement informés pour avoir une idée assez nette et penser surtout à l'avenir. Donc, un cahier de charges à proprement parler, qui est prêt à porter, ça ne peut pas exister parce que le besoin varie selon le milieu.
Oui. Voilà, les besoins varient selon les milieux. Et nous avons un premier auditeur en ligne, Ogi Bendelo, qui nous appelle Kikwit, dans la province du Bandundu. Vous êtes intéressé, ce sujet vous intéresse également, composez le 081-890-6394.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h, autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capifoot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Comment aider les communautés locales à élaborer un bon cahier des charges à soumettre aux investisseurs qui viennent dans leur milieu? Ogui Bendelo, bonjour.
Bonjour, bonjour à notre invité et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment.
Alors, vous êtes à Kikwit, dans le Bandundu. On vous écoute.
Merci, Judy, de m'avoir accordé la parole. Je pose la question à notre invité parce que la question est de savoir comment aider une communauté locale ou la communauté locale à élaborer un cahier des charges. Alors, je voulais poser la question à notre invité, par exemple, un ING qui arrive nouvellement dans un milieu, dans un village. Bon, tout le monde doit avoir accès, tout le monde doit être formé. Bon, qui doit former, ça doit prendre combien de temps? Bon, les gens, ces villageois, ces autochtones-là, on doit tenir aussi compte de leur niveau d'études ou bien n'importe qui a bonne volonté et qui voit que c'est nécessaire pour lui. Bon, c'est aussi avoir l'accès. C'était là ma seule question, je dis Gatama.
Bien, merci. Malonga, vous êtes à Bandundu. Bonjour.
Oh, bonjour aujourd'hui, Kachama, et à notre invité là-bas.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, moi, je viens de suivre tout ce que notre invité nous dit. Bon, ma préoccupation est que, après avoir signé cette clause de contrat, est-ce que quelle période qu'on peut attendre que la réponse de tout ça va venir? Puisqu'il y a beaucoup de promesses, oui, nous mettons et nous prendrons acte de tout ce que vous dites, bon, nous partons. Et dès qu'ils étaient partis jusqu'aujourd'hui, ils ne reviennent pas. Est-ce qu'il y a une période, après la signature de cette clause, on peut s'attendre qu'après 2 mois, après une année ou bien après 5 ans, notre recommandation sera belle et bien répondue?
Bien, merci. Ignace Bizaboya, vous avez suivi les auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Oui, en fait, j'ai bien suivi Ogui Bendelo de Kikwit. Tandis que Malonga, vous allez me rappeler en fait ce qu'il a comme préoccupation.
Oui. Voilà, Malonga dit, lorsque les investisseurs arrivent, ils demandent les cahiers des charges des communautés locales, on soumet les cahiers des charges, les besoins, après ils partent pour ne plus revenir. Alors il veut savoir quelle est la période d'exécution. Lorsque les cahiers des charges est soumis, l'investisseur dispose de combien de temps pour exécuter, n'est-ce pas, pour répondre aux besoins des communautés?
Ok. Merci bien. On commence par Ogui Bendelo de Kikwit. Dans un village, il est tout à fait difficile d'avoir des gens qui ont une expertise liée justement à l'élaboration d'un cahier de charges. Cela pose souvent problème. Mais les institutions d'enseignement ont, par exemple, on prend le cas de ceux qui ont étudié dans les ISDR, l'Institut supérieur de développement rural. Ce sont des gens ou des techniciens qui, en principe, devrait être très proche de ces milieux-là pour pouvoir aider cette population-là à pouvoir, lorsqu'ils ont des problèmes, des besoins, eux puissent traduire ça à des thématiques clairement et précisément compréhensibles par leurs interlocuteurs. Donc, ça, c'est un problème assez important. Mais aussi, le plus facile, c'est quand une communauté est organisée, elle peut chercher aussi des informations auprès d'autres milieux pour pouvoir se prémunir, se protéger aussi face à certaines exploitations de leurs ressources naturelles. Donc, notre ami Ogui Bendelo, qui est intéressé à la question, nous supposons aussi que il a une expertise assez importante qui pourrait justement aller vers ces communautés-là de manière à leur donner des informations assez précises pour que les ressources naturelles dans chaque milieu ne soient pas simplement au profit des investisseurs, mais au profit aussi de l'ensemble de la communauté. Donc voilà un peu comment nous pouvons résoudre ces problèmes-là de manque de capacité de gens qui vivent dans une communauté X. Tandis que pour notre ami Manonga qui est à Bandundu,
oui,
c'est justement dans le contenu du contrat ou de clause qu'on doit pouvoir ressortir des dispositions qui obligeraient l'investisseur à pouvoir s'acquitter de ses charges selon le timing qui a été indiqué. Puisque lorsqu'on signe un contrat, vous devez savoir qu'il y a des obligations et des devoirs, que ce soit pour la communauté, que ce soit pour l'investisseur. Donc, chacun devrait, en principe, respecter
le contenu du contrat,
oui.
Lorsque un temps donné est déjà dépassé, prenons 2 ans, 5, 3 ans ou 5 ans, ça signifie que le contrat est caduque. Et que cet investisseur-là, lorsqu'il va revenir, la communauté saura tout simplement qu'il était venu dans le sens de escroquerie ou pour justement tirer simplement le bénéfice des ressources sans pouvoir s'intéresser aux problèmes de la communauté. Et là, la communauté est avisée et ne peut plus donner confiance à cet investisseur-là qui est parti pendant un temps et qui revient justement pour le même dossier. Je crois que la communauté aura intérêt de pouvoir classer ces dossiers-là sans objet.
Joseph Mpungu nous appelle de Kindu. Bonjour, Joseph.
Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Oui, permettez un peu, parce que c'est ma première fois de parler à la radio. Excusez-moi un peu. Moi, j'ai une question à demander à notre invité. Nous avons notre concession au village.
Oui.
Il y a eu quelques investisseurs qui sont venus de Kinshasa pour aller exploiter un peu des minerais à Kalima. C'est en 7 kilomètres... 100 km de Kindu. Ils sont arrivés là-bas. Ils se sont adressés au chef de cité. Le chef Fou a pris la mesure, il s'est adressé avec... Il a pris des populations, des garçons de Kalima pour aller voir une forêt là où se trouve un peu de minerais. Le chef a donné à ces messieurs-là une forêt pour exploiter ces minerais, sans pour autant passer par la communauté paysanne. Alors, moi, je voulais demander, nous, les propriétaires de cette forêt, nous n'avons aucun bénéfice. Alors, moi, je voulais demander à l'invité, est-ce qu'il peut nous donner d'autres stratégies pour que nous aussi, les paysans, nous puissions peut-être bénéficier quelque chose dans notre possession. Quand nous sommes allés demander à ces investisseurs, ils nous ont dit que nous avons tous les documents donnés par les chefs de cité. Si nous avons les droits, les chefs de cité nous ont donné des policiers pour nous protéger. Alors nous, les villageois, les paysans, les propriétaires de cette concession, on n'a aucun intérêt. Nous n'avons aucun intérêt. Alors je voulais maintenant demander à notre invité, est-ce qu'il peut nous donner un peu d'éclaircissement pour que nous aussi, les paysans, nous pouvons profiter, avoir quelque intérêt dans notre possession. C'est ça ma question.
D'accord, merci Joseph. Louis Dibana est à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Oui, moi j'ai une petite préoccupation en rapport avec les contrats avec les investisseurs.
Oui.
Il y a certains investisseurs, quand ils arrivent dans un contrat, dans une communauté, oui, ils signent et après on constate que leur investissement ne voit pas bien. Alors ils ne parviennent pas nécessairement à résoudre les problèmes, les difficultés signées avec la communauté. Alors, s'ils ne parviennent pas seulement à résoudre cette justice-là après contrat, est-ce qu'on peut saisir la justice?
Voilà, merci. Là, pour cette question, Ignace Bizaboya, vous avez suivi le premier intervenant, Joseph, qui dit l'investisseur arrive, il va voir le chef des cités, il lui donne un peu d'argent, mais ça peut être un chef coutumier qui reçoit aussi, comme vous l'avez dit, du sel, des paquets de cigarettes et un peu d'argent, il ferme les yeux, voilà, il donne l'autorisation à les faire, et voilà, et c'est toute la communauté qui ne va pas bénéficier, n'est-ce pas, des avantages liés à cette exploitation. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, en fait, je vais répondre à Joseph Mbungu de Kindu et après vous allez m'éclaircir sur la question de M. Louis de Kananga.
D'accord.
En ce qui concerne la communauté de Kindu dans un village qui en fait dispose d'une concession, je ne sais pas de combien d'hectares, ça aussi il n'a pas précisé, mais il parle simplement qu'ils sont non loin, à peu près 100 km de Kalima.
Oui.
En fait, voici la réponse condensée. La loi foncière dans notre pays détermine la superficie que les autorités au niveau de province devraient céder aux exploitants, juste à la limite de 1000 hectares. Au-delà de 1000 hectares, c'est la responsabilité du gouvernement central. Donc, M. Joseph Mbungu et les autres membres de sa communauté, quelle que soit la raison présentée par cet investisseur-là, qui en fait est en train de pouvoir dire qu'il a des autorisations du chef de la cité, par rapport à la loi foncière actuellement en vigueur, bien entendu, puisqu'il y a une commission qui a été mise en place par arrêté du Premier ministre et du ministre des Affaires foncières
oui.
sur la révisitation ou la révision de la loi foncière actuelle. Mais avant l'adoption de la nouvelle loi, la loi actuelle ne donne aucun pouvoir au chef de cité, au chef de village, ou même pas le chef coutumier, de pouvoir céder une partie de terre congolaise. Donc, cet investisseur-là est déjà en violation de la loi. À ce niveau-là, tout ce que vous pouvez faire, c'est de récupérer les copies de ce contrat-là pour pouvoir informer les autorités au niveau de la province et en réservant des copies au niveau du gouvernement central. Et vous verrez que quand vous aurez affaire aussi c'est un plaidoyer assez efficace, le résultat sera probant. Parce que la plupart des cas, nos communautés n'ont pas l'esprit de plaidoyer. Lorsqu'ils sont envoyés par un investisseur ou des investisseurs, ils se tairent et ils n'ont pas cet esprit de pression vis-à-vis de ces occupants-là, illégaux,
oui.
de manière à pouvoir se retrouver dans leurs intérêts. Donc, moi je pense que la stratégie actuelle, c'est de pouvoir communiquer auprès des autorités de ce que vous avez comme problème et de faire des pressions par plaidoyer
oui.
pour que vous ayez le résultat que vous voulez obtenir.
D'accord. Alors, par rapport à la question de Louis de Kanangaïdi, l'investisseur arrive, il a eu des échanges avec les représentants de la communauté et les représentants ont soumis un cahier des charges en bonne et due forme et il part faire son exploitation, mais ça ne marche pas. Hein, et donc, il n'obtient pas les résultats escomptés. Et à ce moment-là, il n'est pas en mesure de pouvoir répondre de satisfaire au cahier des charges de la communauté. Est-ce que à ce moment-là, la communauté peut traduire cet investisseur en justice?
Oui.
C'était ça sa
en
question.
Fait, la démarche serait pratiquement la même comme notre ami de Kindu, Joseph Mbungu.
Oui.
Mais ici, la différence est que dans la clause même de ce contrat-là avec le bailleur, mais il doit d'abord savoir distinguer ce qu'il a comme obligation vis-à-vis de la communauté qu'il a reçue, qui lui a accordé justement cet espace d'exploitation. Donc, et il sera même indiqué dans la clause, lorsqu'il y a un différend, un conflit, ils savent très bien qu'ils devront s'adresser au tribunal le plus compétent dans leur ressort, parce que le jour où ils signent ce contrat-là, mais le contrat devra être notarié, on ne peut pas cacher ce document-là. C'est un document public d'intérêt communautaire. Les tribunaux doivent savoir que tel investisseur est venu dans tel milieu pour investir et voici ce qu'il a comme obligation. Donc, la pression doit être de mise de manière à ce que la communauté puisse se retrouver dans ses droits. Parce que là, ce ne sont pas des cadeaux. Quel investisseur ne vient pas pour offrir de dons, mais c'est plutôt un engagement qu'il a pris vis-à-vis de la communauté.
Voilà, mais il y a un problème, Ignace, au niveau des villages, souvent les chefs et les membres de la communauté ne maîtrisent pas tellement les termes, ne maîtrisent pas comment bien élaborer les cahiers des charges. Alors vous ne trouvez pas qu'ils ont besoin d'être aidés par d'autres structures à mieux élaborer les cahiers des charges?
Oui, ça, en fait, je l'ai dit peut-être en introduction, j'étais peut-être trop pressé. Quand je répondais à notre ami au guide de Nelo de Kikwit,
oui.
Les communautés devraient se faire accompagner par des experts, ce qui est en fait aussi onéreux, sinon avec des organisations de la société civile qui opèrent dans les domaines, que ce soit le domaine des intérêts purement des paysans ou les domaines fonciers. En ce moment-là, on peut organiser des campagnes de vulgarisation, que ce soit de la loi portant principes fondamentaux relatif au secteur de l'agriculture, de la loi foncière, de la loi du code forestier, de la loi, disons, du code minier, de manière à ce que, petit à petit, les gens puissent savoir comment ils peuvent, eux, tirer le bénéfice de leurs ressources naturelles. Donc, il y a vraiment du travail à faire parce que les organisations de la société civile, très souvent, vous le remarquerez, ils sont plus intéressés dans de grands centres, villes et cités, mais au niveau de villages, c'est vraiment impensable que des organisations de la société civile y descendent pour pouvoir amener des informations ou pour former des activistes, que ce soit même dans le domaine simplement de droits de l'homme. Vous verrez que les gens s'arrêtent à un certain niveau. C'est-à-dire, vous avez Kinshasa, les autres villes, chefs-lieux de province, et les grandes cités, mais tandis que pour aller dans les secteurs ou villages ou parfois nos groupements, c'est vraiment difficile. On sait bien qu'ils ont des raisons, mais je crois que c'est un travail qu'il faudra planifier de manière à permettre à ces communautés-là de s'adapter à ce nouveau langage de cahier de charges.
Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu à aider certaines communautés dans le cadre de votre confédération paysanne du Congo?
Oui, oui. Dans une mission à l'intérieur du pays, précisément au niveau du Katanga, il y a une organisation internationale qui avait, dans le cadre de la sécurité alimentaire, mis en œuvre un projet, mais il a fallu que, par rapport à ce projet-là, qu'il y ait une évaluation. Et de cette évaluation-là, il fallait aider la communauté à pouvoir, être en possession de certaines informations pour justement améliorer un cahier de charges qu'ils avaient déjà signé avec l'organisation internationale qui était venue à leur assistance. Donc, ce sont des cas assez particuliers, mais ce que nous faisons aussi, chaque fois que nous avons de formation, nous relevons certains indices très importants qui doivent être portés par la communauté pour leur faciliter justement l'expression de besoins prioritaires. Et que ces besoins-là, comme je le disais aussi, ne peuvent pas s'exécuter tous au même moment. Parce que l'exploitant aussi a tout un planning à répondre. C'est comme ça que nous devons avoir, par exemple, des ouvrages qui peuvent être exécutés à court terme, d'autres à moyen terme, d'autres à long terme. Donc à ce moment-là, ça permet justement à l'investisseur de bien budgétiser pour que la réalisation de ces ouvrages-là, par exemple, en ce qui concerne les infrastructures sanitaires ou scolaires, puisse se réaliser par rapport au contrat tel qu'il a été signé entre les deux parties.
Bien, Ignace Bizaboya, coordonnateur de la Confédération Paysanne du Congo, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions et aux questions des auditeurs, et à la prochaine.
Merci bien, à bientôt.